Nous sommes en train de continuer l'étude sur les différents statuts, les différentes positions qu'on a reçues en Jésus. Il s'est passé des choses grandioses le jour où ce qu'on a donné notre vie au Seigneur. On est venu à Jésus, toute défaite, démolie par le péché, par le diable, enchaîné. On a crié à Dieu, puis Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, nous qui méritons rien, ben il nous a pardonné de nos péchés, puis en plus de ça, il nous a délivrés. À partir de ce moment-là, il nous a donné le Saint-Esprit, puis il nous a équipés d'un paquet de bénédictions. On est en train d'en voir plusieurs. Comme aujourd'hui, c'est une super de bénédiction, on mérite rien de tout cela. Puis le Seigneur, bien, il y a de quoi de beau qui s'en vient à cause qu'on appartient au Seigneur. Il nous a rachetés, il nous a lavés, nettoyés. Il a fallu qu'il chaîne, puis il frotte, qu'il y a bien des places, puis même il a gratté pour pouvoir enlever tous les morceaux qu'il y avait de trop. C'était tout un, comme tu veux, restaurer un vieux meuble antique. Des fois, c'est juste un peu de poussière, puis il est déjà encore comme neuf, mais il y a d'autres fois, il faut que tu grattes les motons, puis les galettes, puis les 20 couches de peinture qu'il y a eu dessus. Mais notre vie est à peu près comme ça, recouvert de souillure, de saleté, de crasse, de poussière, puis c'était tout le péché, tout ce qu'on a pu vivre qui déplaisait à Dieu. Notre âme était souillée, sale. Puis il nous a pris, puis il nous a lavé par le sang de Jésus, qui est très efficace. Il n'y a pas un savon qui peut laver aussi efficacement. Quand Jésus te lave, t'es flambant neuf, comme si tu viendrais d'être fait. Tu repars à zéro, c'est ce qu'il dit. Tu repars à zéro, c'est comme si tu viens de naître. T'es une nouvelle créature. Puis en plus, il a mis en toi un paquet d'affaires qui fait que t'es plus le même homme ou la même femme. T'es changé complètement. Puis là, on est en train de les découvrir, ces bénédictions-là. À chaque semaine, on a un nouveau message qui nous parle de cela. Puis la position qu'on a en Jésus, la seule qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Que nous sommes, grâce au Christ, destinés à la gloire. Vous allez vous comprendre, c'est grandiose, c'est, comme j'ai dit, on n'a jamais mérité rien de ce qu'on a. C'est des cadeaux qui donnent parce que Dieu l'a décidé puis il l'a préparé. Il a tout préparé ce que ça prenait pour qu'on puisse y arriver. J'ai une question. Est-ce important pour vous ce que Dieu pense de vous? Il y en a des gens qui vont dire, « M'en fous, moi! » Tu sais, puis ils sont tellement qu'ils s'en foutent, ils veulent rien savoir de ce que Dieu a à dire. Fait que même s'il y aurait une Bible dans les mains, il y aurait tous les enseignements, les paroles de Dieu, puis ils garochent la Bible, ils sont prêts à cracher dessus, puis à l'acheter à terre, sauter dessus, mettre le feu dedans, les jeter dans les poubelles, toutes sortes de réactions qui s'est faites dans le monde, puis il y en a du monde qui s'en fout de ce que Dieu pense. Savez-vous que présentement, Dieu est en train de se faire une opinion de chaque personne vivant sur cette terre? Des fois, on pense qu'on, moi, je suis tellement petit, je passe inaperçu, Dieu sait même pas que je suis là. Puis ils pensent qu'ils sont à, vu qu'ils sont en noirceur, que Dieu les voit pas. Puis que Dieu, en fin de compte, s'il y en a un Dieu, mais il peut pas retenir tout ce qu'on a fait. Mais ils vont rester surpris. Parce que la Bible, elle nous le dit. Tout ce qu'on a fait, c'est écrit dans des livres. C'est une manière figurée. C'est sûr que dans ce temps-là, c'était des livres. Aujourd'hui, c'est des ordinateurs. Mais lui, il est encore mieux que ça. Il a sa mémoire qui est bien vive. Puis qu'il retient tout. Nos pensées, nos paroles, nos sentiments, nos émotions, nos contextes. Il connaît tout de nous. 100%. Puis pas juste de ceux qui lui appartiennent. De tous les êtres qui ont vécu depuis Adam et Ève jusqu'au dernier qui naîtra. Il connaît tout le monde, puis il n'y en a pas un qui est venu au monde sans que ça soit sa volonté. Dieu a permis que des gens, que tout le monde qui a vécu vienne au monde comme qu'ils étaient. Puis des fois, Dieu les a endurés toute leur vie. Mais Dieu n'oublie rien de ce que les gens ont fait. Puis Dieu se fait une opinion. Mais pendant qu'il y a des gens qui se foutent de ce que Dieu a dit, il y en a d'autres qui sont intéressés de le savoir. Puis ils lisent la Bible, puis ils veulent savoir ce qu'il y a dedans. Ils veulent connaître les promesses, ils veulent les recevoir, puis ils veulent faire partie, parce qu'ils croient tellement qu'ils veulent en faire partie de ceux qui vont vivre cette histoire-là avec lui après. Je pense que j'en connais une couple de ceux qui sont intéressés. L'être humain, en général, il base son évaluation de lui-même en se comparant aux autres. Sans trop tenir compte de ce que Dieu peut penser. Si je suis comme la moyenne des gens qui m'entourent, je suis pas si pire. Si moi je rentre pas, moi je suis sûr de rentrer, il y en a des bien plus pires que moi. Quand on s'évalue aux autres, là, on pense toujours qu'il y a pire, fait que ça nous rassure. L'être humain se base sur son environnement. Tout le monde le fait, fallait donc. Si tout le monde le fait, ça te sécurise parce que tu penses que vu que tout le monde l'a fait, que c'est pas grave, t'as pas vu personne tomber à cause qu'ils l'ont fait, donc tu peux le répéter puis c'est pas grave. On pense pas aux conséquences. Dans Jean 5, 44, Jésus parla aux gens qui l'entouraient. Il dit, comment pouvez-vous, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherche point la gloire qui vient de Dieu. Dans cette phrase-là, Jésus est en train de réfléchir puis d'exprimer ce qu'il pensait pour que les gens essayent de prendre une conscience. Les gens tirent gloire les uns des autres. Fait que, l'un qui fait de quoi, l'autre le félicite. L'autre fait de quoi, l'autre le félicite. Même si c'est dans le péché, c'est pas grave du moment que tu réussis à te faire féliciter ou encourager par quelqu'un qui va peut-être faire la même chose que toi. Les deux, on s'est encouragés. On tire notre gloire les uns des autres. On se félicite, même si c'est dans le péché. Mais sans tenir compte de ce que Dieu, lui, pense de cet événement-là ou de cette chose-là. Là, il dit, vous tirez votre gloire les uns des autres et ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Est-ce que dans cette situation-là, quand on tire notre gloire de quelqu'un, il y a quelqu'un qui nous félicite? Là, on est fier. Mais si je poserais la question à Dieu, est-ce que Dieu il est fier de ce que je viens de faire? Si le gars raconte à ses chums, j'ai été voir la voisine hier, puis c'est ci, puis c'est ça, puis il a fait ci, puis il a fait ça, puis il se vante de son score. Tu sais? Le monde aujourd'hui font ça. L'autre, il dit, il rit de ça, il l'encourage, puis lui, il va peut-être compter les siennes, qui fait qu'il en a fait lui tout. Puis les deux s'encouragent. Pose la question à Dieu, ça va, est-ce que lui en pense? Est-ce que Dieu nous féliciterait d'avoir accompli ces choses-là? Puis ça, c'est important de réaliser quand tu es chrétien. On ne vit pas pour l'approbation des autres. On vit pour l'approbation de Dieu. Est-ce que Dieu approuve ce que je fais? Même si tout le monde dit quelque chose ou tout le monde fait quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est approuvé de Dieu. Dieu, lui, il veut approuver des choses, puis il a déjà écrit ce qu'il approuvait. Où est-ce qu'il a écrit ça? Dans sa parole. Tout ce que Dieu approuve, c'est écrit, puis ce que Dieu désapprouve, c'est écrit. Puis l'analyse de Dieu, l'opinion de Dieu, je pense qu'elle compte un petit peu, ça va venir à la fin, quand que Dieu va remettre à chacun selon ses œuvres. Puis là, Dieu nous parle, parce que là, dans sa parole, il nous dit toutes sortes de belles choses, puis des choses qui sont où? Le constat de Dieu est que l'ensemble des humains sur cette terre sont déjà privés d'accéder à la gloire de Dieu. Ça nous le dit dans Romains 3, 23, je l'ai dit la semaine passée, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a tombé dans le péché. Tout le monde a désobéi. Tout le monde, dans leur état de pécheur, puis souillé par leur péché, sont empêchés d'accéder à la gloire de Dieu. Pourtant, tantôt, j'ai dit qu'il y a des gens qui sont destinés à la gloire de Dieu. Mais on voit encore dans ce verset-là, dans cette idée-là, qu'il n'y a aucun humain qui a pu accéder à la gloire de Dieu par ses propres mérites. parce que tous ont péché et sont privés de sa gloire. Par défaut, on ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu. Mais Dieu, quand même, il a voulu conduire vers la gloire beaucoup de personnes. Fait qu'il a fallu qu'il fasse de quoi pour permettre aux humains qui ne méritent rien, qui étaient déjà privés de sa gloire à cause qu'il l'avait déclaré dans sa parole, il fallait que tu mettes tout en pratique. Les gens ne l'ont pas tout mis en pratique. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde manquait le test. Fait qu'il ne pouvait pas recevoir la gloire de Dieu. Fait que tout le monde était dans les classés perdus. Mais Dieu a quand même promis, on voit ça dans Hébreux 2.10, puis ça, on voit que là-dedans, des promesses que Dieu veut faire. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, Dieu, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, mais il fallait qu'il élève à la perfection, par la souffrance, le prince de leur salut. Fait que Dieu, il avait un gros travail à faire. L'ensemble des gens ne méritent rien, puis il fallait que quelqu'un nous permette d'accéder à la gloire. C'est pour ça que je vous dis qu'on est privilégié de comprendre, de connaître, d'avoir reçu ce que Dieu veut nous donner. Parce qu'il y a de quoi de grand qui s'en vient. Ça va être extraordinaire. Nous sommes, Dieu qui dit, il a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils. Mais il a fallu qu'il élève à la perfection Jésus, le prince du salut. L'élever à la perfection, c'est qu'il a fallu que Jésus accomplisse la loi. Il a fallu qu'il vive une vie 100% entièrement dans l'obéissance à Dieu sans tomber dans aucun péché. Il a fallu qu'il vive de façon à ce que lui accomplisse la justice de Dieu. Il a fallu qu'il accomplisse la justice de Dieu, c'est-à-dire de vivre une vie dans la sainteté et la pureté sans désobéir aucune fois de toute sa vie. C'est le seul être humain qui a pu l'accomplir, parce qu'il n'était pas juste humain, il était aussi divin. Dieu est en lui. C'était Dieu lui-même, fait homme. Il fallait qu'il soit élevé à la perfection. Ça veut dire, quand tu dis t'élèves tes enfants, t'essayes de les éduquer, les enseigner, pour les faire qu'ils grandissent, puis il faut qu'ils suivent la parole, qui suivent tes paroles, qui suivent tes enseignements, qui suivent tes principes. On élève nos enfants dans nos principes, mais Dieu a élevé Jésus dans ses principes à lui, puis Jésus n'a transgressé aucune des paroles de Dieu. Fait que l'ensemble de l'humanité avait péché, puis sont privés de la gloire, tandis que Jésus, à cause de sa vie 100% conforme, lui, toute gloire lui revenait. Il est le seul. Quand on parle du mot gloire, pour essayer de comprendre, il y a différents sens dans le Nouveau Testament. C'est le mot doxa, qui veut dire glorieux, honneur, éclat. Quand c'est éclatant, c'est glorieux. Quand on regarde, on a parlé de l'apparence de Jésus, puis si le soleil est dans, il y a le visage qui rayonne comme le soleil dans sa pleine force, on ne sera pas capable de le regarder, c'est trop glorieux. C'est dans ce sens-là où quelqu'un qui est placé en dignité comme un roi, puis il a toute sa chaise, des estrades, sa chaise, puis là tu vois plein d'ornements d'or, puis des bijoux, puis un habit tout magnifique là avec toutes les couleurs, puis les objets de valeur après lui, puis la grosse couronne, c'est un roi. Fait que le fait de le voir élevé dans son éclatante apparence comme, ou dans sa position qu'il est l'autorité, puis tout ça, mais quand c'est élevé, mais c'est la gloire. Dieu, il y a plusieurs sens, mais Dieu, il veut nous faire comprendre il y a un autre sens aussi que le mot gloire veut dire, ça veut dire le résultat en louange. Quand tu t'amènes quelqu'un, tu veux l'élever dans la gloire, tu vas le louanger, tu vas le féliciter, tu vas lui donner les honneurs, c'est que tu glorifies quelqu'un. Fait qu'il il y a ces trois sens-là, au moins, que le mot gloire veut dire. Mais l'éclat, élever quelqu'un, ou la splendeur, la beauté, puis l'élévation par une autorité, par un poste que tu donnes. Là, si on prend ce mot-là, dans ces trois sens, on retrouve des versets dans la Bible qui nous parlent que Dieu veut nous amener dans cet état-là, mais dans les trois. Autant pour notre apparence, autant pour notre position en titre d'autorité, puis l'autre, puis aussi des louanges, puis des félicitations, puis des remerciements, puis des encouragements verbaux pour nous élever. Dieu veut conduire beaucoup de fils à la gloire. Nous sommes présentement, puis il faut s'attendre à ça, un jour, Dieu va recevoir, pour ceux qui vont se rendre, avec un gros sourire, avec des paroles, puis il va nous encourager, puis il va nous élever, puis il va nous établir dans quelque chose que tout le monde va nous regarder comme ça. C'est ça la gloire, c'est ce que Jésus a présentement, c'est ce que les anges glorieux ont, puis il va mettre les vainqueurs de cette planète, il va les mettre en autorité dans la vie éternelle, au-dessus des anges, dans le nom de Jésus. Ça, il va y avoir quelque chose de spécial qui s'en vient. Ça va, oui, amen, il faut s'encourager avec ça, puis il ne faut pas perdre de vue ces choses-là, parce que c'est notre encouragement. Là, c'est facile d'être chrétien, mais si jamais ça devient difficile, on tient ferme. Pourquoi? On le sait où est-ce qu'on s'en va. On se laissera pas voler. En Jésus, il nous a déjà été donné ce qui nous conduirait dans la gloire. Quand on a accepté Jésus, ce qui est important d'obtenir pour pouvoir y arriver à l'obtenir, sa gloire, mais il nous l'a déjà donné. Ce qu'on avait besoin, c'est déjà donné. On avait besoin de la présence de Dieu dans nos vies par le Saint-Esprit. Ça, on l'avait besoin, puis on avait aussi besoin de la révélation de sa parole, puis on l'a. On a déjà ce qui est le plus important, le Saint-Esprit puis sa parole. Puis par cela, ce qu'on a reçu en Jésus, ça va nous aider à marcher, à tenir ferme, puis à garder le cap jusqu'à temps qu'on rentre dans la gloire. Jésus le dit dans Jean 11, 40, et dans la prière sacerdotale. Jésus lui dit, non, c'est pas ce verset-là, c'est dans Jean 17, 22, excusez. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus nous a déjà donné la gloire qu'il possédait, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Jésus nous a déjà donné ce qui faisait sa gloire à Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait que les autres n'avaient pas? Mais c'est la parole, il y avait l'Esprit Saint, la puissance de Dieu était en lui, était sur lui. Puis il y avait aussi la révélation de la parole, il comprenait la parole, puis il savait c'était à quoi le chemin, puis il l'enseignait aux autres. Puis Jésus avait déjà donné à ses disciples sa gloire. C'est à quoi? Ça a commencé par la réception du Saint-Esprit, puis la connaissance de la parole. Puis ça nous accompagne tous les jours pour nous amener dans la gloire. Jésus nous a dit que la foi en lui nous permettrait de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Parce que la gloire de Dieu n'est pas juste à la fin. Déjà, ici présent, nous pouvons vivre la gloire de Dieu. On l'a reçu, ce que ça nous prenait pour se rendre. Mais il dit, dans Jean 11, 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Dieu a déjà donné aux gens ce qui était nécessaire pour voir la gloire de Dieu. Nous n'avons qu'à croire pour le saisir. Ce qui s'est passé à cet événement-là, ils l'ont vu, la gloire de Dieu. La puissance de Dieu s'est révélée, il y a eu une personne qui a été ressuscitée. Qu'est-ce que Jésus leur avait demandé comme critère. Ayez la foi, croyez, vous allez le voir, la gloire de Dieu. Puis ils l'ont vu à ce moment-là. La présence de Dieu s'est révélée. Dieu a approuvé la prière de Jésus, puis a exaucé. La gloire de Dieu, c'est que Dieu t'accompagne, puis Dieu fait des signes pour te démontrer qu'il est là, puis il approuve ce que tu fais. Puis il t'accompagne, il est avec toi, puis il trouve les portes, puis il accomplit, il manifeste sa puissance, il manifeste sa présence, puis les gens qui la vivent ne font qu'expérimenter le changement. Les choses changent, Dieu est avec moi, les choses changent, ma vie est changée, je suis transformé, puis je m'en vais de gloire en gloire, je m'amène à devenir comme Jésus sur cette terre, puis imaginez-vous après. Pour les êtres humains qui ne comprennent pas, ils trouvent la foi comme une folie. Quand tu leur parles de ça pour le monde, c'est quoi? Ils trouvent que c'est de la folie. Oui, non, ça a du bon sens. Tu sais, tous les raisonnements de rébellion puis de pas accepter. Puis c'est ce que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 1:18 nous a dit. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Quand tu l'as reçu, tu t'aperçois que parler de Jésus, parler de la croix, parler du nom de Jésus, parler des choses, des promesses de Jésus, c'est puissant, il se passe de quoi? Nos vies changent depuis qu'on est au Seigneur, puis il y a des vies qui se rajoutent, des gens qui acceptent Jésus, puis leur vie est changée. C'est puissant, prêcher l'Évangile. On voit la gloire de Dieu quand on parle du Seigneur. On voit sa puissance, son esprit agir, puis sa parole qui s'accomplit. On voit des prophéties s'accomplir. C'est la gloire de Dieu. On la voit présentement sur la terre, sa gloire. Puis Dieu continue d'agir, puis il n'a pas fini d'agir. Puis il va nous en donner selon notre foi aussi. C'est pour ça qu'il faut aspirer à en voir plus. On peut voir Dieu dans ses signes, ses prodiges, ses miracles, accompagner ce qu'on dit, ce qu'on fait dans notre témoignage, puis de voir sa puissance à l'œuvre. Dieu s'attend à ce qu'on ait la foi pour qu'on s'accroche. Puis c'est pour ça qu'il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais les gens dans le monde, ils trouvent que c'est une folie, mais pour nous, on le sait que c'est vrai, parce qu'on l'expérimente. Dans 2 Thessaloniciens 2:14, ça nous dit que Dieu nous appelle par l'Évangile, parce que nous autres, on sait que c'est une puissance de Dieu, mais il nous a appelés par l'Évangile à posséder la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Thessaloniciens 2:14, il dit, c'est à quoi qu'il vous a appelé par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, quand il a quitté le ciel, il dit, après ça, il était sur la terre, puis il pria à son Père, « Père, redonne-moi la gloire que j'avais auparavant, avant que le monde fût. » Jésus avait quitté sa gloire, puis il est venu pendant un temps terrestre, puis pendant qu'il avait presque fini son temps terrestre, il a repris son Père, « Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Fait que quand Jésus est ressuscité, il est allé se rasseoir à la droite de Dieu, puis il a retrouvé sa gloire. C'est là qu'il a pu dire à ses disciples, étant ressuscité, et du tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. Puis Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, puis que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Fait que sa gloire, c'est quoi? Mais son nom à Jésus, quand il est prononcé dans le ciel, mais c'est Yeshua. Jésus, c'est une mauvaise traduction. Yeshua! Toutes les milliards d'anges se mettent à genoux en entendant son nom. C'est-tu pas glorieux? Ça, c'est la gloire d'être positionné dans un état où tous les anges de Dieu l'adorent. Puis à nous, qui sortons du péché, tout souillés, puis qu'on mérite à rien, il nous a appelés à obtenir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Aïe, aïe! Ça va être quelque chose, mais qu'on soit rendu là. de se retrouver avec Jésus. Moi, je ne mérite pas ça, moi, là, là. Puis lui, il a décidé de nous appeler par l'Évangile à ce qu'on possède la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de nous préparer pour la gloire. Ce qu'on vit présentement, il n'y a rien qui est comme ça a échappé. Dieu n'a pas fait exprès, puis il nous dit, « Oups, excuse-moi, j'ai manqué ma shot. » Il n'y a pas d'affaire de même qui arrive dans notre vie. Dieu sait, ça va d'avance, avant qu'on vienne au monde, tout ce qu'on était pour vivre. Il n'y a rien qui est hors du contrôle de Dieu dans notre vie. Pas que Dieu nous fait pécher, mais il savait qu'on pécherait, puis il savait qu'on désobéirait par bout, puis il savait, il avait tout vu l'histoire d'avance. Mais les choses sont, il dit toutes choses après ça, quand tu es en Jésus, toutes choses concourent à notre bien. Fait que même un malheur qui nous arrive, Dieu s'en sert pour notre bien. Pourquoi que les choses après ça, il s'en sert pour notre bien? Parce qu'il est en train de nous préparer. On est en préparation pour la gloire. Il y a un travail à faire à chaque jour, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, les choses difficiles, les choses faciles. N'importe quoi, il utilise là, lui, pour nous préparer. Si on veut être beau, il faut qu'on accepte. Ouch! Oups, Seigneur! Il nous dit des affaires. Oups! Il veut nous émonder. Il veut nous enlever un bout. Il y a des affaires, il faut qu'il nous il enlève de notre vie. Il y a des affaires, il faut qu'il rajoute. Il faut qu'il nous prépare. On vise à devenir comme Jésus là, mais il faut devenir comme Jésus ici. Dans 2 Thessaloniciens 2, 14, non, c'est pas celui-là, c'est Romains 9, 23, il est en train de nous préparer. Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Nous sommes des vases de miséricorde qui a obtenu sa miséricorde. Préparé pour la gloire. Tu n'arrives pas là pour préparer. Faut que Dieu fasse une préparation, des modifications, des transformations, des changements. Puis nous, on accepte le changement.
Amen.
On accepte le changement. On veut pas continuer à être rebelle dans son chemin pendant que lui veut nous amener par là. Mais là, nous, on tente à dévier. Non. On obéit, on marche en suivant le Seigneur. Puis la préparation, c'est changement dans nos pensées, changement dans nos paroles, changement dans nos sentiments, changement dans nos actions, nos œuvres. Il y a des choses à faire en nous pour qu'on devienne présentable. Il se sert de tout ce qu'on vit, comme épreuve, des souffrances, notre foi, parce que des fois, il nous appelle à faire des pas de foi, pour embellir notre gloire. Dans 1 Pierre 1, 7. Ça nous dit que l'épreuve de notre foi, c'est plus précieux que l'or périssable. Ah! Comment est-ce qu'il y en a qui aiment ça, porter une belle chaîne en or, puis qui sont fiers quand ils ont leur chaîne en or? Ils ont la chaîne dans le cou, puis là, ça vaut peut-être 500$, la bague, 1000$, il y a une coupe de perles, mais de l'or pour du monde, ils sentent important, ils sentent en valeur. Mais il dit que les épreuves qu'on est en train de vivre présentement, les souffrances, les difficultés, ça, c'est encore plus précieux que l'or. L'or pour Dieu, c'est tellement commun qu'il a décidé de s'en servir, faire de l'asphalte dans le ciel. Tout est en or partout. Pour lui, c'est commun. Tandis que nous, mais il dit, considère tes souffrances que tu es en train de vivre. C'est plus important que de l'or. Puis la beauté qui va en sortir au bout de la ligne quand on va finir notre vie, on va être beau à cause qu'on a passé à travers de nos souffrances, en gardant la foi, en persévérant. Pour Dieu, là, ça a une valeur inestimable. C'est ce que ça nous dit aussi dans 1 Pierre 1, 7. L'épreuve de votre foi, C'est plus précieux que de l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu. L'or est éprouvé par le feu, elle est chauffée pour être purifiée. La même chose que nos vies. Elle est chauffée par nos épreuves pour que le méchant sorte et pour que le bon, on devienne de plus en plus pur. Et dit l'épreuve de votre foi, c'est plus précieux que de l'or périssable qui est éprouvé par le feu. Elle est pour résultat. Il y a un résultat de l'épreuve de notre foi. Regardez quel est le résultat qu'on va obtenir. La louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Qui va nous donner de la louange, de la gloire et de l'honneur? Dieu lui-même. C'est quelque chose. Dieu va dire des félicitations, il va donner des louanges. T'as bien fait, putain, je t'en... Puis là, notre vie va être finie. Quand je t'ai vu passer à travers de cela, wow! Puis à cause de cela, je te donne ça. Il va nous récompenser pour chaque affaire de belle qu'on a vécue. Dieu, il nous exhorte dans la Bible à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu y oublie rien. Il y a un soir, ça te tente pas, puis il y a quelqu'un qui t'appelle. Ben, tu y étais, mais Dieu s'en rappelle. Il les oublie pas. Chaque moment, chaque 5 piastres, chaque n'importe quoi que tu as fait, il se rappelle de tout. Tes prières, il s'en rappelle de tout. Tes efforts, ça t'a coûté de quoi? T'as eu de la souffrance, mais ça fait partie du travail que Dieu t'a appelé à cela. Mais il sert de ça pour t'embellir, puis il veut en mettre. La louange, là, s'il fait ça, on arrive au ciel, il dit une petite tape dans le dos. T'as bien fait. Bon, je donne une petite tape dans le dos, c'est sûr que c'est mieux que de se faire rejeter, mais je pense pas que ça va être juste des petites tapes dans le dos que Dieu va nous donner. Puis de dire, t'as bien fait. T'appelles pas ça de la louange, de la gloire, puis de l'honneur. Être honoré, là, juste un exemple, dans l'Ancien Testament, il y a eu un homme qui avait fait une œuvre, il s'appelait Mardoché, puis il avait dénoncé un complot pour tuer le roi. Puis là, le roi, il s'aperçoit de cela, mais il n'avait pas eu de récompense pour avoir fait cela. Puis il a demandé à un autre gars, qu'est-ce que je devrais faire pour récompenser quelqu'un qui a fait de quoi de spécial pour sauver ma vie? Mais l'autre, il a dit, ben, revêt-le de tes habits royaux, embarque-le sur le cheval qui appartient au roi, puis il fallait faire comme passer dans la ville tranquillement, puis tout le monde va être autour, puis tout le monde va l'applaudir, puis donner des louanges, puis là, il dit, c'est ça qu'on doit faire quand le roi veut honorer quelqu'un. Puis ils l'ont fait pour Mardoché. C'est l'idée que je veux qu'on comprenne. Quand que Dieu... Il dit que les souffrances que tu vis présentement, ça va avoir comme résultat de la louange, de la gloire et de l'honneur. Ça va être grandiose, les applaudissements, puis les félicitations, puis les honneurs, puis les merci, puis les qui sont contents, puis les acclamations, puis les milliards d'anges qui vont applaudir, puis tous les autres saints qui vont être là, ils vont en avoir des milliards ça avec. On va tous s'encourager les uns et les autres et se féliciter puis d'être contents d'être là. Puis on va y sourire fendu 2 pouces plus loin que ce que notre bouche peut ouvrir. On va être heureux d'être là. Ça va être extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous excite. Moi, j'aime ça, penser à ces affaires-là. La Bible nous exhorte à ne pas relâcher. Puis de persévérer dans nos souffrances, pas de persévérer à se faire souffrir, mais quand tu souffres, par exemple, lâche pas le Seigneur, persévère, continue à servir le Seigneur. Il dit, continue, lâche pas, parce que les récompenses vont être grandes. Dans Romains 8, 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Savez-vous que Dieu veut se prononcer, lui-même, Dieu va prononcer des paroles, puis remettre à chacun son appréciation. Dieu, moi je vais passer devant Daniel Poulain. Là, il va me parler à moi. Mais après ça, il va vous appeler un par un. Vous allez tout passer, toute la gang, de tous les milliards, des milliards, des milliards de mondes qui ont vécu dans ce monde, vont tout passer un par un devant Dieu, puis Dieu va parler à chaque personne, puis il va analyser toute sa vie devant lui, puis peut-être devant les autres avec, de ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a pensé, puis blablabla, tout. Y a-tu accepté Jésus? Il l'a pas. Tout le monde va passer devant Dieu, puis Dieu va se prononcer sur chaque personne. Dans 1 Corinthiens 4, 5, là, ça parle à des chrétiens. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'au jour où est-ce que je vienne. Le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Moi, je vais recevoir de la louange de la part de Dieu qui me sera due. Chacun de vous, vous allez recevoir de Dieu la louange qui vous sera due. Tout dépendant de la manière que vous avez vécu sur cette terre. On a tous, en parlant aux chrétiens, là, ça parle à des chrétiens, on a tous le même Saint-Esprit, on a tous la même parole de Dieu d'aimer. Le reste, après ça, c'est on a des dons différents, ça, je suis d'accord. On est appelé, puis là, on a le guide dans les mains, toute la gang. Puis, la manière qu'on va réagir à cela, on va vivre en fonction de ce qui est écrit là, puisqu'on est conduit par le Saint-Esprit. Puis, plus elle est fidèle, plus on en recevoir. Les bouts qu'on a manqués, mais il les voit tous aussi. On va chier. Jésus, lui, est seul, en mourant sur la croix, qui a dit « Tout est accompli ». Nous, c'est sûr qu'on n'a pas tout accompli ce que Dieu s'attendait de nous. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est pour qu'on se reprenne en main, puis Seigneur, guide-nous qu'on en manque le moins possible. Qu'on se mette à obéir et à faire ce qu'il nous demande. Parce que les récompenses sont grandes pour ceux qui ont travaillé. Ceux qui ont obéi, il y en a qui vont rester surpris là, au bord, vous allez le voir dans les autres versets. La Bible parle, pour les sauver, d'un tribunal afin que nos œuvres soient passées en revue. 2 Corinthiens 5, 10. Il veut nous donner la gloire, oui, pour les bonnes affaires, mais c'est, on n'a pas juste fait des bonnes affaires. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Quand tu es en Jésus, là, tu fais du bien, tu fais du mal. Chacun va recevoir selon le bien ou le mal qu'on a fait dans son corps. Il nous appelle à la gloire, mais il va quand même nous passer comme si tu passes à l'hôpital et tu as le tri à faire avant de passer devant le médecin. Mais on a un jugement, les récompenses sont après, si tu as passé le tri, voyez-vous. Ce jour d'analyse puis d'appréciation de Dieu sera le plus important car nous recevrons la glorification ou le rejet de Dieu. Parce qu'il y en a qui ne passeront pas le test. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a des versets pour ça. Puis je suis obligé de les dire. J'aimerais ça vous dire juste les bons versets. Mais à cause que je veux être tête avec ce qui est écrit dans la parole, je suis obligé de dire aussi les versets qui sont pas agréables. Puis il faut pas les prendre comme si c'est pour nous rejeter. Pas du tout. Dieu, quand il nous parle, c'est pour qu'on se rajuste tout le temps, qu'on mette notre vie en règle. Si on réalise qu'on marche un peu de travers, mais il veut nous redresser, puis il faut les entendre, ces versets-là. Dans ce jour d'analyse-là, ça va être le plus important. C'est une appréciation qu'on reçoit de Dieu pour nous glorifier ou un rejet ou des critiques ou des Puis ça ne sort pas comique parce que j'allais le voir dans Matthieu 25, le verset 21. Quand il y a quelqu'un qui est arrivé là, il dit, son maître lui a répondu, il dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Il a parlé de même à un serviteur. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Rentre dans la joie de ton maître. Il y en a qui vont se faire accueillir, puis leur vie consacrée au Seigneur, toute la patente, ils servaient le Seigneur, puis ils sont rendus jusqu'à la fin, puis Dieu les accueille. Bon et fidèle serviteur, c'est bien. T'as bien, tu sais, il y a de l'encouragement, il y a de la louange, il y a des appréciations, puis rentre dans la joie, ça veut dire qu'il y a de quoi qui va nous faire vivre que la joie va être complète. Puis dans l'autre serviteur, dans ces versets-là, au verset 26, Matthieu 25, 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne ou ce que j'ai pas semé, puis que j'amasse ce que j'ai pas vanné. » Lui, il a pas voulu servir. Il a enterré son talent. Il a pas voulu marcher pour le Seigneur, même s'il était déclaré un serviteur du Seigneur, puis il avait reçu du Seigneur le talent. Le talent qu'il a reçu, ça représente, il a reçu lui aussi le Saint-Esprit et la même parole de Dieu que toutes les autres. Tu as une portion avec des dons, des capacités que Dieu veut que tu mettes ta vie dans le service du royaume de Dieu. Puis Dieu va nous analyser à la fin si on est dans la marche ou si on est enterré, tout ça. À lui, au verset 28, ça dit, premièrement au verset 26, il dit qu'il est méchant puis qu'il est paresseux. Puis il fait des remontrances en lui disant, tu aurais dû faire ci, puis tu aurais dû faire ça, puis tu n'aurais pas dû faire ça. Puis en plus, il dit, enlevez-y son talent. Donnez-le à celui qui en a 10, puis le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, ce qui aura des pleurs, des grincements dedans. C'est ouch. Puis ça, là, s'il nous dit ça, Jésus, c'est parce qu'il veut qu'on pense à ces versets-là, puis qu'on se dise, moi, là, je ne veux pas que je fasse partie de cette gang-là. Moi, je veux faire partie de ceux que Dieu va être content. Ça veut dire, il faut que je serve le Seigneur, puis j'arrête d'être soit par méchanceté, soit par paresse ou par ignorance, puis je vais chercher que j'ai besoin de savoir, puis je fais ce que j'ai à faire. Dieu s'attend de nous des choses, puis il ne veut pas qu'on enterre nos talents. La Bible, elle nous parle de plusieurs types de couronnes données de la part de Dieu aux vainqueurs, parce qu'il y a des couronnements. Quand que quelqu'un, il y a des Olympiques, puis il y a le gagnant, il y a une médaille d'or. Puis il y en a, c'était des lauriers. Puis là, tu peux en avoir de toute beauté, là, toutes les sortes. Là. Mais Dieu, il a déjà planifié qu'il était pour couronner des gens. Puis l'apôtre Paul nous en parle. Il nous parle de la couronne de justice dans 2 Timothée 4, 8. Il dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Avez-vous hâte que Jésus revienne? Amen. Bon, mais si vous aimez son avènement, marchez dans la foi de ces choses-là. Il y a un jour, il y a un couronnement pour tous ceux qui ont cru puis qui l'attendent. Couronne de vie, dans Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Êtes-vous de ceux qui aiment le Seigneur?
Amen.
Amen. Il y a une autre couronne. Couronne de gloire. 1 Pierre 5,4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Une couronne de gloire. Il voulait amener à la gloire beaucoup de fils. Il nous a appelés à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ça se tient tout, ces versets-là. Il y a un message que Dieu veut que tu saisisses. T'es appelé, puis il y a de quoi de grand qui s'en vient. Il y a des couronnements. Puis quand il nous parle du tribunal de Christ pour recevoir selon le bien et le mal, ce mot-là, tribunal, c'est comme un piédestal, comme pour couronner les vainqueurs, tu sais, le podium. C'est dans ce sens-là aussi. Ça a le sens de recevoir selon le bien ou le mal, mais il y a quand même un couronnement de podium pour recevoir le couronnement, les couronnes. Puis les trois, on est dans une catégorie pour les recevoir. C'est pour nous. Il y a de quoi de grandiose qui s'en vient. Nous sommes appelés à la gloire. Puis nos couronnes nous seront données pour l'éternité. Ici, ce qu'on reçoit, tu reçois un diplôme, là, un certificat de mérite, un diplôme. Tu le mets sur le mur, puis pas longtemps après, il est rendu jaune. Puis si tu n'as pas en plus échappé de quoi dessus pour t'échapper de la sauce à spaghette, parce que tu l'avais laissé sur la table, il est tout beurré, il est scrap. Tu le prends, tu le jettes dans les poubelles, il n'y a rien à faire. C'est tout corruptible ce qu'on reçoit comme médaille. Tu as un beau trophée, tu le mets en l'air, il y en a un qui s'accroche dans l'armoire, puis il tombe à terre, paf, la tête du trophée est pétée ou je sais pas quoi. Les couronnes, les récompenses terrestres, ils se détruisent. C'est éphémère, ça ne dure pas longtemps. Mais les celles qu'on va avoir, c'est des couronnes incorruptibles, des couronnes éternelles. 1 Corinthiens 9, 25. Il nous dit, tous ceux qui combattent et s'imposent toute espèce d'abstinence, puis ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. On est l'encouragement de persévérer dans le Seigneur parce que nos récompenses, tu les perdras jamais. Puis ta gloire, ton honneur, ta louange, elle va être éternelle. La satisfaction de la vivre la joie du Seigneur, entre dans la joie du Seigneur, ça va être, on peut pas se l'imaginer. Ce qu'on est capable de ressentir aujourd'hui comme joie produite par le Seigneur, c'est très limité. Comparé à ce qu'on va recevoir là au bord. Puis là, il y a un dernier avertissement dans un verset. Le Seigneur, il nous exhorte à veiller, puis à garder précieusement votre couronne. Vous êtes déjà appelés. Il faut que tu veilles, puis tu tiens fort ce que Dieu t'a donné, pas que personne ne te le prenne. Dans Apocalypse 3, 11, ça dit « Je viens bientôt ». S'il dit ça, c'est parce qu'il veut t'encourager pour te dire « Ça sera pas long, c'est à la veille, lâche pas, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Laisse-te pas, oh là je suis tanné, c'est trop, je suis tanné de souffrir, je suis tanné de tous les efforts, je t'en ai, puis toutes les raisons, puis on laisse tomber toutes les promesses de Dieu, puis on se laisse aller à la dérive. Puis on vit selon le monde, comme tout le reste du monde. Non, on ne peut pas être comme ça. On a déjà reçu l'appel, on est en chemin de ce qu'il y a de plus grandiose, de ce qui ne pourra pas se vivre, ni sur la terre, ni dans le ciel. Courons, prenons ce que Dieu nous a donné, gardons-les bien fort, là. Puis il n'y a pas personne qui va toucher à ça. Il va falloir qu'on me passe sur le corps pour pouvoir me l'enlever. Puis il ne me l'enlèvera pas. Il faut être prêt à mourir pour garder ce que Dieu nous a donné. Amen. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne tes couronnes. Parce qu'il va en avoir des couronnes de la gloire et de l'honneur. Voulez-vous faire partie de ceux qui vont recevoir tout ce que Dieu nous a promis sans qu'on le mérite. Oui, on le veut, puis on veut tout ce que Dieu a à nous donner, puis en même 10 de plus. Merci, Seigneur. Prions. Seigneur, je te remercie pour tes belles paroles, Seigneur, qui nous encouragent à garder le cap, à persévérer, puis à s'abandonner davantage dans tes bras, dans tes mains, puis à se laisser modeler, transformer. Tu es en train de nous préparer à de quoi de grand, puis on mérite absolument rien de tout ça, puis par nous-mêmes, on est incapable, mais on veut garder tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Puis on te donne plein accès à nos vies pour que tu viennes nous changer, nous transformer comme bon te semblera. Puis guide-nous aussi dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, on te fait confiance pour notre marche, puis on veut rester accroché, puis on veut aller jusqu'au bout. Merci de cet appel, puis je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen.